Salut, c'est Madame Meuf. Aujourd'hui, eh bien, alors vous allez croire qu'on continue le mois sur les sexualités. Et en fait, c'est pas totalement exclu. Pourquoi ? C'est le printemps. Et donc, je pense énormément printemps, comme Emmanuel Macron il y a quelques années. Mais je pense également aussi sexualité beaucoup en cette période. Et je me suis dit, après les différents sujets cul qu'on a abordés le mois dernier, pourquoi n'aborderait-on pas les métiers du cul ? Voilà, je me suis dit, c'est des métiers un peu méconnus sur lesquels il y a quand même beaucoup de préjugés, de fantasmes. Et donc, ce mois-ci, à mon micro, comme invité, je n'aurai que des gens qui me racontent de l'intérieur qu'est-ce que c'est que ces métiers de la sexualité. Et donc, on commence aujourd'hui avec Carole Ruvira. Bonjour Carole, qui était déjà venue chez moi deux fois.
Bonjour Hélène.
Ouais, salut Carole, tu es ? C'est ton métier, tu es ?
Je suis sexologue et thérapeute de couple.
Et voilà, et c'est beau, hein. Et du coup, je me suis dit, tiens, et pourquoi la payer 90 euros alors que je pourrais la faire venir répondre à mes questions ? C'est faux. C'est faux parce que comme je ne suis que dans l'altruisme et dans l'empathie, je vais lui poser des questions pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans le cabinet de la sexologue ? Qu'est-ce qui pousse les gens à consulter ? Qu'est-ce qu'elle se raconte vraiment quand on lui raconte nos sornettes ? Voilà, vous saurez tout ça après le générique.
Salut, c'est Madame Meuf.
Oh,
yeah. Et bam. Et bam, c'est Madame Meuf. Carole me dit que c'est 80 euros et c'est pas du tout cher du tout. Non, non, et surtout, c'est utile car la sexualité, c'est le désir, c'est la vie. Voilà, on a quasiment tout dit. Non, pas du tout. Non, alors Carole, moi, la question que j'avais envie de te poser, c'est qu'est-ce qui pousse dans ta patientèle, qu'est-ce qui pousse les gens à pousser la porte, en fait ? Parce qu'on pense psychologue, tu vois, et encore pas pour tout le monde, mais on pense parler à ses amis, on pense demander à Google, mais quand est-ce qu'on pousse vraiment la porte de la sexologue ou du sexologue ?
Alors, on peut même demander à ChatGPT maintenant.
Ah oui, c'est vrai que je n'y avais pas pensé.
Il est très fort, celui-là aussi. Ouais. Qu'est-ce qui pousse les gens ? C'est leur souffrance. Ouais. À partir du moment où ils souffrent trop, et ils décident de pousser la porte. Mais c'est un peu, des fois, à la limite de leur de l'acceptable pour eux et une difficulté supplémentaire pour pouvoir avancer. Parce que ce qui nous manque dans la sexualité, c'est quand même l'éducation à la sexualité que nous n'avons pas reçue et que les jeunes ne reçoivent pas encore. Donc, voilà ce qui leur pousse à venir.
Et pour toi, justement, tu fais partie d'une forme d'éducation à la sexualité ou... Parce que toi, tu dis, ils arrivent, en fait, ils sont déjà à la limite de l'acceptable, ils sont déjà hyper en souffrance, limite dans le trop tard, c'est ça que tu veux dire ? Ou alors, t'interviens comme une éducatrice
Non, non, il n'est jamais trop tard. Mais l'idée, c'est d'aller chercher la petite étincelle qui leur reste à allumer pour qu'ils se remettent dans leur épanouissement sexuel et aussi sur et aussi faire de l'éducation à la sexualité parce que c'est à partir de ça que les gens vont mieux comprendre qu'est-ce que la sexualité.
D'accord. Et t'as des gens qui poussent ta porte et qui ont une maturité sexuelle, un âge certain et une maturité sexuelle avec une méconnaissance totale ou pas?
Ben oui, parce que la moyenne d'âge de mon cabinet, ça doit être 35 ans.
Ouais.
D'accord. Et à 35 ans, j'ai encore beaucoup, beaucoup trop de femmes qui ne se masturbent pas. Aussi, beaucoup d'hommes qui ne savent pas bien se masturber, qui ont un imaginaire érotique au niveau de zéro. Donc ça, c'est quand même notre base sur la sexualité. Qui est importante. Mais peut-être que je pourrais te donner les domaines où la sexualité intervient.
J'allais justement te demander, Carole, mais quelles sont les différentes dimensions de la sexualité ? Et ça, c'est Carole qui... Non, c'est trop cool, qui a préparé ça pour nous. Et effectivement, dans l'idée, la sexualité, c'est pas je bande plus. Et quelles sont les différentes dimensions qui interviennent ?
Alors, il y a toute cette dimension qu'on peut dire socio-culturelle. L'éducation qu'on a eue, la religion, la morale, donc une partie. L'évolution du monde sur la sensibilité, les prédispositions génétiques en font partie.
C'est quoi l'évolution du monde ? C'est-à-dire, il y a la guerre, du coup, j'ai plus de désir ?
Entre autres,
il y a la guerre. Oui, en gros, c'est le stress, la vie individualiste, etc. C'est ça.
C'est tout ce qui se passe aujourd'hui et comment on évolue et comment l'impact sur les réseaux sociaux, l'impact de la question de genre qui est de plus en plus présente parce que donner que plus de jeunes se posent la question par rapport à ça, par rapport à l'homosexualité, par toutes ces différences qui est une évolution qu'on n'avait pas.
D'accord, les évolutions de la société. D'accord, et donc évidemment, ça, oui, ça rentre dans le questionnement et dans l'appropriation de son plaisir.
Voilà. Tout ce qui est de la partie physique, notre anatomie, comment on fonctionne dans notre corps et encore beaucoup de femme, alors je prends toujours cet exemple, qui n'a jamais regardé sa vulve dans une glace, donc il ne sait pas encore à quoi elle ressemble.
Qui a vu le spectacle de Foresti qui leur dit que la vulve est moche. Du coup, elles n'ont plus envie de regarder.
Donc, elles n'ont pas envie. Tout ce qui est sensualité, la pratique de l'érotique, tout ça. Donc, tout ça, c'est tout ce qui est...
Je note la pratique de l'érotique, parce que je trouve ça très beau. Mais je te demanderai après, qu'est-ce que c'est que la pratique de l'érotique par rapport à... Bah, je te le demande maintenant, en fait. Allez, la pratique de l'érotique, c'est quoi? C'est est-ce que c'est alors évidemment, j'imagine que c'est pas la pornographie, sinon tu l'aurais dit comme ça.
Oui.
Est-ce que c'est je m'auto-kiffe, je me mets dans des délires érotiques, dans mes fantasmes, ou c'est quoi en fait?
Bah, c'est de comprendre que notre corps est un objet de plaisir et que à un moment donné, travailler aussi à travers l'imaginaire érotique. Qu'est-ce qui va se passer dans notre corps qui peut être révélateur de quelque chose qu'on ne connaît pas encore.
D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça, oui, ça parle de la... Donc, c'est pour ça que tu parlais de connaissance de son corps. Mmh. Tu dis qu'il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas leur corps parce qu'il y a plus de femmes qui poussent la porte du cabinet de la sexologue.
Un peu plus, mais pas tant que ça. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui poussent la porte. Mais c'est que les hommes n'attendent pas aussi longtemps.
Ah oui,
Dans ce moment de souffrance, les hommes n'attendent pas aussi longtemps que les femmes.
C'est hyper intéressant.
Et dès qu'ils ont une panne érectile, deux fois une panne érectile, ils viennent au moins se poser la question de se dire qu'est-ce qui se passe là dans ma vie. Et,
d'accord.
Et donc, c'est plus rapide.
Alors que l'acceptation des femmes, elle vient à la fois de la méconnaissance, peut-être de l'idée de ne pas s'autoriser le plaisir, et surtout, elles tiennent longtemps, quoi.
Oui, elles tiennent longtemps, elles pensent que ça va, que tout va s'arranger, que l'amour fait tout, que les sentiments amoureux, je pourrais dire, fait
ça,
tout.
Ça, c'est bien les Batignolais, parce qu'elle est dans les Batignolles. Ça, c'est bien un truc de Batignolais, ça. Ah ouais ? D'accord, incroyable.
Donc, et puis, c'est, pas oser peut-être en parler avec des copines, mais se dire qu'elles sont très différentes et comment elles vont gérer. Enfin, c'est compliqué de pousser la porte d'un sexologue.
Mais en tout cas, pour toi, il y a plus de méconnaissance chez les femmes de son corps et de son plaisir.
Oui, plus. Les hommes, c'est qu'il y a quelque chose de plus facile parce que ils pensent savoir se masturber, mais comme ils se masturbent pas très bien, faut l'accepter, quoi. Il y a tout un travail de dire, mais c'est pas possible, je sais le faire. Oui, vous faites ça depuis très longtemps, mais c'est pas aussi bien fait dans la perception, la dimension de ressenti du corps.
Je vais être obligée de couper ton plan et on en était au grand 2, mais est-ce que je peux te dire, c'est quoi, te demander, qu'est-ce que c'est se masturber bien pour un homme?
C'est de connecter avec son pénis, de utiliser du lubrifiant pour se masturber, parce que ça, c'est important pour la suite de sa vie sexuelle.
D'accord.
De pouvoir faire basculer le bassin.
La bascule du bassin, ça, on connaît bien, nous, quand on a été enceinte, les filles, il faut basculer ton bassin.
Et quand tu te masturbes, il faut que le bassin bouge, il n'y a pas que la main qui doit bouger.
D'accord.
Et ils ont une chose qu'ils font très rarement, même si ces choses-là, ils les font très rarement aussi, c'est érotiser son corps.
Ouais, le reste du corps.
Le reste du corps qui va redonner des sensations sur cette pratique érotique.
D'accord.
Donc, c'est à peu près les grandes lignes.
D'accord.
Et vraiment d'être connecté à ce qui se passe dans la masturbation, que c'est pas quelque chose qu'on fait en 5 minutes.
On peut aussi, on a le droit.
On peut, mais pas que.
Pas tout le temps, oui, pas que.
Il faut savoir alterner pour bien avoir les bonnes sensations.
Parce que toi, tu penses imaginaire érotique, dans quelle mesure ma masturbation me permet aussi de connaître mieux mon corps et dans quelle mesure ça me permet d'augmenter le plaisir
D'augmenter cette jouissance ou cet orgasme qui va monter parce que j'ai cette possession de cette dimension émotionnelle de mon corps que je connais.
D'accord. Ok. Donc, je t'ai coupé dans les dimensions de la sexualité. Qu'est-ce qui joue sur le fait d'avoir une bonne sexualité? Donc, t'en étais aux évolutions de la société.
Ok. Non, j'étais sur le physique.
Sur le physique, bien sûr. Bien et sûr. Voilà. Bim! Une fessée.
Maintenant, je vais parler de l'hygiène. C'est quoi la santé sexuelle?
Ouais.
Les mesures préventives contre les infections, tout ce qui est grossesse, tout ce qui peut être lié à...
Qui peuvent être des sources de stress.
Oui, la contraception.
Je le dis, parce que moi, ça m'a gâché ma vie sexuelle. Ça ne me l'a pas gâché, parce que quand même, je suis une combattante. Mais à une époque, ça aurait pu me la gâcher tellement c'est beaucoup, quoi. Enfin, tellement c'est cette contrainte. Enfin, la charge sexuelle, elle est quand même ouf. Hein. Et je trouve que c'est... Enfin, moi, je suis génération sida. Alors, en plus, ça, c'était pas cadeau. Mais en plus de ça, c'est vrai que la pilule et le machin, et où est-ce qu'on en est, c'est quand même un sujet, quoi.
Ouais, et puis là-dessus, si on peut partager un petit tips pour les auditeurs, c'est que ce préservatif, il faut quand même qu'il soit chauffé à bonne température pour qu'il soit plus agréable pour être mis. Mm-hmm. Et ce qui facilite après de se dire, OK, on va utiliser des préservatifs parce que c'est... quand même, c'est une protection pour notre santé.
Ouais. Donc tu disais, donc ça, tu relistes-moi là ce que tu as mis dans la dimension sécurité-hygiène.
Santé sexuelle.
Sécurité, la dimension sécurité-hygiène. Bonjour, bienvenue dans votre sexualité. Je suis l'inspecteur de la dimension sécurité-hygiène.
Tout ce qui est santé sexuelle, mesures préventives contre les infections, les grossesses, toutes ces difficultés qui tournent autour de ça, la contraception et autres.
Toi, dans les gens qui poussent la porte de ton cabinet, je vais répéter 200 fois cette phrase, à pousser la porte de ton cabinet, je ne sais pas pourquoi. Je trouve que ça fait hyper sérieux.
Mais c'est vrai qu'il faut la pousser, en fait.
Il faut la pousser, en vérité. Non, mais toi, les gens qui viennent te voir, du coup, toi, je sais ce que je veux dire. Je suis con, je m'auto-sabote des fois. Toi, dans les gens qui viennent te voir, il y a des gens qui sont complètement à la rue, justement, sur ces questions-là, ou alors qui ne sont pas bien renseignés sur les questions IST et contraception. Et autre question, est-ce qu'il y a des mecs qui sont grave à la rue alors que la meuf, elle gère de ouf? Tu vois où je veux arriver?
Non, je pense que là, je ne vois pas où tu veux arriver. Il faut que tu sois un peu plus clair, parce que moi, j'ai besoin toujours de clarté.
Grand un, est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment mal renseignés? Et c'est un des motifs de consultation.
Par rapport aux maladies?
Oui, par rapport aux maladies, contraception, etc.
Oui, par rapport au HPV, il y a encore des gens qui sont... qui sont mal informés.
Ouais, mais tu m'étonnes.
Et donc, ça, c'est embêtant.
Le HPV, c'est le
papillomavirus.
Inch'Allah, t'as pas un cancer de l'utérus. Sachant que moi, qui suis vraiment abonnée, moi, j'étais abonnée vraiment avec ma vie sexuelle et mon hypochondrie additionnée, j'étais abonnée au centre SIDA, bidule, gratuit. Moi, je passais ma vie là-dedans. On m'a fait faire le HPV avant, il y a 3 ans, 4 ans. Jamais.
Ah oui?
Jamais.
Ça va, ouais.
Donc, c'est, tu m'étonnes qu'on ne connaisse pas. Bon, bref.
Bon, là, il y a toute une campagne heureux à faire des choses là-dessus, parce que ça, c'est vraiment méconnu.
Et aussi, est-ce qu'il y a des mecs qui sont complètement à la rue, alors que leur nana dans le couple est hyper au courant? Tu vois, est-ce qu'il y a des mecs qui ont lâché vraiment ce morceau-là de « ça ne m'intéresse pas, ces petites balivernes, leurs petites tambouilles de nana ».
Non, je ne vais pas dire ça comme ça. C'est plutôt encore les femmes qui portent tout ce qui est contraception.
Mmh.
Mais les hommes, quand ils viennent en consultation, puisque je reçois aussi des couples, sont impliqués.
Mmh.
Et sont... Non, ils sont impliqués là-dessus. J'ai pas vraiment d'hommes qui font n'importe quoi.
D'accord. Ouais, bah on remarque le mec qui pousse la porte de ton cabinet. Il est déjà un petit peu intéressé.
Oui, c'est ça.
Vas-y, ton autre dimension.
Alors, il me reste encore 3 dimensions.
Vas-y.
La dimension psychologique,
oui.
L'image corporelle, l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, les fantasmes, l'inhibition.
D'accord.
Ça, c'est, voilà,
la psychologie, elle joue sur les fantasmes.
Oh, oui.
Sur l'autorisation, c'est
l'autorisation
ça?
L'autorisation des fantasmes, oui.
J'adore cette phrase, je vais la noter, je la prendrai dans mon spectacle.
D'accord.
Ça marche.
Les relations interpersonnelles, ça c'est tout le sujet du désir, de l'amour, de l'attachement, de l'attirance, la dépendance, de la jalousie, de la communication.
Ouais.
Donc ça c'est des gros sujets. pour nous.
Et je pense que les gens, ils mettent que ça, non, quand ils arrivent chez toi, non? Ils arrivent vraiment sur ces sujets-là, non?
La majorité des gens, à 90%, c'est à peu près le manque de libido, ce qu'ils appellent, mais plutôt d'appétit sexuel.
Ouais.
Donc, c'est un peu là-dessus qu'ils arrivent. Mais d'ailleurs, il y a aussi toute l'image corporelle. Enfin, il y a toujours quelque chose dans toutes ces dimensions.
Ouais, ouais, c'est, le jugement aussi.
Le jugement.
On n'a pas eu le jugement.
Non, parce que ça fait partie des choses qui sont... les gens se comparent.
Ouais, ouais. Oui, donc c'est dans le bien-être dans son corps. Quoi.
C'est ça.
Ouais.
Et puis la dernière dimension, c'est les difficultés de traitement. Mm-hmm. Tout ce qui est dyspareunie, vaginisme, problème érectile, anorgasmique.
Ouais. C'est quoi la dyspareunie?
C'est tous les mots que tu as au niveau de la vulve.
D'accord, les mocs. Ouais.
Les mots,
d'accord.
Toutes les douleurs que tu as à ce niveau-là.
D'accord.
Donc voilà, c'est sur toutes ces dimensions qu'est la sexualité. Donc c'est pas juste je pousse la porte d'un cabinet.
On baisse plus.
Voilà,
ouais.
C'est ça.
Ouais.
C'est plus complexe que ça.
Ah ouais.
Et c'est pour ça que.
Et donc tu as évidemment dedans 1200 situations différentes dans toute ta patientèle. Ou alors non, c'est quand même hyper homogène et c'est grave sur on baisse plus.
Par rapport à la demande initiale.
Ouais, enfin les gens qui te consultent.
C'est tout est différent, même s'il y a des points communs ou des choses qu'on voit qui sont présentes dues à la non-éducation de la sexualité. Mais étant donné que chaque personne est différente, évidemment, c'est des accompagnements personnalisés, mm-hmm. avec le couple aussi. Et, okay. et comment ils ont établi leur communication, comment ils se sont connus, à quel âge, enfin, voilà.
Et donc, toi, alors comment ça se passe, justement Qu'est-ce que tu as dans la tête quand tu les conseilles, toi? Parce que moi, par exemple, je fais de la psychanalyse. Mmh. Et donc, je vois bien, tu vois, moi, je suis allongée sur mon petit fauteuil. Et pendant ce temps-là, Micheline est derrière, là. Et puis, qu'est-ce qu'elle se dit? Si ça se trouve, elle est en train de, tu sais, se regarder les ongles, de compter ses doigts, de fantasmer sur moi. Je ne sais pas. Sachant que ma psy écrit des tonnes de bouquins érotiques. Donc, j'espère que c'est ça.
D'accord, il faut que tu lui demandes.
Ouais, non, je ne lui demanderai pas, je n'ai pas envie de savoir.
D'accord.
Et non, mais toi, qu'est-ce que tu as dans la tête, justement? Évidemment que tu es obligé d'être focus, tu les as face à face, les mecs qui sont en détresse, ils ont besoin de... Enfin, c'est pas comme un cabinet de psy où tu as du temps de cerveau disponible pour toi.
Oui, c'est que je suis vraiment face à face aux gens.
Ouais.
Donc, l'idée de ce que j'ai dans la tête, a priori, quand je les écoute, j'ai rien dans ma tête parce que je veux pas que leur transmette des choses qui sont pas vraies. Donc le questionnement est très aidant pour justement avoir rien dans la tête.
Mm-hmm.
S'il y a quelque chose qui m'anime, que je pourrais appeler ma motivation, ma mission par rapport à ce métier que je fais, c'est d'aller un peu chercher chez eux l'étincelle qui reste encore pour leur dire que tout est possible en fait.
Ah ouais.
Ça s'arrête pas là. C'est pas parce que on s'aime pas, on n'a pas vu sa vulve, on a des problèmes érectiles, que on peut plus être dans le plaisir, on ne peut plus être dans sa sexualité. C'est ça que je vais chercher, c'est ce déclencheur que je vais chercher en leur posant toutes ces questions. Évidemment, après, ils repartent avec des exercices parce que c'est pas juste en venant au cabinet pour trouver tout ce qui se passe, tout ce qu'ils ont vécu, que ça va suffire. Il faut qu'ils passent par l'expérimentation.
Ouais.
Et c'est grâce à cette expérimentation qu'on peut aller voir qu'est-ce qui bloque chez eux, c'est quoi leur croyance limitante, c'est quoi l'idée qu'ils ont sur cette sexualité. Et travailler aussi avec toute une partie qui est très importante, c'est l'imaginaire érotique. Parce que les gens, ils ont mis ça de côté depuis tellement longtemps.
Juste un truc, et après on reprend sur l'imaginaire. Moi, par exemple, je serais bien emmerdée de venir avec mon mec dans ton cabinet. C'est-à-dire que moi, c'est chouette, avec mon mec, on parle, ok, machin. Mais les trucs sont bloqués. Moi, bon, comme ça. Mais moi, il y a plein de trucs, je n'ai pas envie qu'ils sachent. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il doit y avoir une part de secret. Quand les gens ils viennent en couple, tu crois vraiment que le mec, il va dire, évidemment, que j'ai trop envie de baiser elle et pas toi. Évidemment. Enfin, tu vois, il y a quand même une part de vérité là-dedans. Moi, il y a eu des périodes de ma vie où je me serais tapé un réverbère tant qu'il n'y avait pas de pipi de chien dessus, juste pour ne pas me taper mon mec. Enfin, vraiment, c'est... tu ne peux pas dire ça à l'autre. Tu ne peux pas aller là-dedans.
Alors, comment je travaille, parce que je ne reçois jamais les couples ensemble.
Ah, d'accord.
Je les reçois une demi-heure l'un, où chacun me dit ce qui se passe, une demi-heure l'autre.
Ah, ça me rassure. Allez-y, du coup.
Et puis, une demi-heure où on
oui,
est
oui, après,
en
on
trois.
Fait style, on est trop d'accord et carrément, je te
non,
kiffe
non, on n'est pas trop d'accord.
D'accord, on n'est pas trop d'accord.
On n'est pas trop d'accord, mais je permets de pouvoir de se dire les choses qu'on n'ose pas se dire parce qu'on ne sait pas comment l'autre va les prendre et que ce n'est peut-être pas à cette séance qu'on va le dire, mais à une autre séance. Moi, la seule chose que je demande, si on veut, si on s'engage dans la thérapie de couple, c'est qu'à côté, il n'y a pas une relation extra-conjugale.
Ah, d'accord. Alors que ça peut être un très, très beau moteur.
Ça peut être un très beau moteur, mais en fonction de ce qui se passe, parce que les couples viennent généralement pour reconstruire quelque chose.
Ouais, bien sûr.
Donc, c'est compliqué de reconstruire s'il y a quelqu'un de présent, régulier et autre. Après, si on se voit pour que le couple se arrête, et ça arrive.
Ouais, bien sûr, il y a des gens qui font ça juste par eux, ils pourraient aider à
faire,
la sortie.
Voilà, la sortie de se rendre compte. Là, qu'il y a une relation extra-conjugale, c'est pas important, mais je dis, mettons de côté pendant un certain temps, et comme ça, parce qu'en thérapie de couple, on vient pas uniquement pour se dire on va repartir ensemble.
Bien
sûr. On peut arriver à un constat que on va se séparer, mais de façon sympa, correcte.
Mais toi, par exemple, tu disais je reçois les gens donc un par un, puis ensuite on va aborder les sujets qui sont durs à amener. Mais est-ce qu'il faut tout dire vraiment? C'est parce que moi, j'adore avoir ma vie personnelle qui n'est qu'à moi, et puis tu n'as aucun pouvoir dessus, et puis clac, clac, clac. Tu vois, j'adore.
Tu as le droit d'avoir ton jardin secret.
Ouais.
D'accord.
Mes fantasmes, qu'est-ce que je me raconte quand je fais de la sexualité? J'ai pas nécessairement envie de faire un communiqué de presse dessus, tu vois.
Ben non, mais ça, c'est ton jardin secret. Donc, ça, on ne se le dit pas forcément dans
la
thérapie.
Oui, on dit ce qui peut aider, c'est ça.
Ce qu'il dit, c'est qu'il y a une souffrance. Donc, à partir d'une souffrance, c'est que les gens sont d'accord pour venir pour améliorer le système.
Oui, t'as raison, bien sûr.
D'accord. S'il n'y a pas de souffrance...
Oui, on est très content avec son truc. Oui, t'as raison.
Et s'il n'y a pas de souffrance et que chacun a sa vie parallèle et que...
Peut-être qu'il y en a un qui a une souffrance et pas l'autre.
Oui, alors
ça, tu dois le voir.
En général, il vient seul au début, quand il y a une souffrance. Et après, comme c'est 50-50 dans un couple, l'autre peut être amené à être en thérapie et exprimer ce qui se passe pour lui aussi.
D'accord, ok. On va reprendre sur l'imaginaire sexuel, mais j'ai une question depuis le début, j'ai envie d'éclater de rire tellement j'ai envie de te la poser. Est-ce que tu t'es déjà tapé un patient ou une patiente?
Absolument pas, c'est pas éthique.
Ah, bravo! Bon, voilà, je suis désolée, il fallait crever l'abcès. Donc, c'est un excellent cabinet. L'imaginaire. Tu me disais, donc, les gens savent pas activer leur imaginaire érotique. Ils repartent avec des exercices, genre quoi?
Alors, genre quoi sur l'imaginaire érotique? Soit la lecture.
Ouais.
D'accord.
Oui, la pratique érotique, ce que tu disais tout à l'heure, là.
Ouais. Soit des podcasts érotiques.
D'accord.
Ok. Soit se construire des images en donnant un scénario assez facile. Hein. Qui vous avez envie qu'il soit là? Dans quel lieu? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer? Comment vous êtes habillé? Comment l'autre est habillé?
Ils le disent à eux-mêmes ou ils le disent à l'autre?
Ah non, pour l'instant, c'est un travail soi-même avec soi-même. D'accord.
Ouais.
Son imaginaire érotique, il doit être là parce qu'il va nous aider à aller dans la pratique de la masturbation et il va nous aider à être dans la pratique à deux.
D'accord.
Pour augmenter notre jouissance et notre orgasme.
Ouais.
Donc, c'est ce qui est le plus compliqué à mettre en œuvre l'imaginaire érotique parce que les gens se sont dit non, faut pas que je pense à l'autre pendant que si je fais à l'amour, je peux pas penser à autre chose, à quelqu'un d'autre. Mais non, parce que je le trompe. Maintenant, vous
trompez.
Ah
non, non, oui, on s'en fout.
Je peux pas parce que je me dis que
c'est vilain, oui, c'est quand même vilain.
Voilà, donc ça, c'est toutes les croyances limitantes, tous les tabous que l'on s'est mis. Et les gens disent, ah bon, mais lire un truc érotique, mais quoi? Qu'est-ce? Aller à la librairie, il y en a plein. Trouvez ce que vous voulez, parce qu'on ne va peut-être pas commencer par quelque chose de
très... Oui, avec un BDSM direct.
Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, voilà. Ça demande un vrai cheminement aux gens de faire ça, parce qu'ils disent, mais ça, c'est pas possible. C'est interdit, en fait.
Ouais. Quoique, si ça se trouve, tu vois, moi, je suis persuadée que les gens, on ne connaîtra jamais leur sexualité puisqu'en plus elle est évolutive. Enfin, je veux dire, voilà. Peut-être que d'amener vers ces trucs-là, il y en a un des deux dans le couple à qui ça parle à mort et qui pratique déjà, et l'autre pas. Enfin, tu vois, tu sais pas. Si tu leur files un bouquin de BDSM, ça se trouve, papa, il pratique, et puis maman, elle savait pas.
Alors, comme je les vois toujours, toutes mes consultations, c'est 1, 2 et 3. Si tu veux, à un moment donné,
il faut que ça y aille.
Au questionnement, l'un des deux va me dire, mais moi, j'aimerais bien, de temps en temps, quand je sois attachée, à moi d'être subtile et de faire amener
en fait, tu as les secrets de tout le monde.
Oui, c'est
ça. Elle a les secrets. Et après, c'est quand même hyper... Non, mais le rôle, enfin, la pratique, je comprends que tu aimes ton métier, parce que le rôle, il est quand même... Il y a un côté super pouvoir de l'intime qui est génial, enfin, tu vois, d'intelligence émotionnelle, évidemment de connaissances larges du sujet. Mais je trouve que le fait d'avoir l'un puis l'autre et de voir de manière intelligente qu'est-ce qui va les amener à pouvoir partager encore quelque chose, c'est quand même cool, quoi.
Ouais. Alors, je vais pas parler de pouvoir parce que ça met quelque chose qui est pas ok pour moi dans le pouvoir.
Ouais, bien sûr, t'as raison.
Tu vois, c'est voir deux personnes avec leur fragilité, ce qu'ils sont, avec des déclencheurs différents, lors des étincelles différentes. Comment après on peut mettre cette connexion qui va faire que ça va faire un beau feu d'artifice entre eux.
Ouais.
Et toute la manière de créer des métaphores aux gens pour qu'à un moment donné, ils se mettent qu'ils prennent en main leur plaisir, leur épanouissement sexuel, et de bien faire comprendre aux gens que chaque couple aura sa propre sexualité.
Ouais, ouais. Les gens, ils arrivent quand même avec le terme à la mode, mais avec leurs injonctions aujourd'hui sur... la régularité, la façon de faire, etc.
C'est ça.
Ouais.
Ouais. Et alors là, les jeunes, parce que j'ai plutôt des jeunes qui se font des questionnaires pour savoir c'est quoi leur sexualité, si elle est vanille, si elle est BDSM.
Ah j'ai vu ça sur les... Oui, vanille, putain, mort de rien. J'adore. En même temps, ça veut tellement dire... Vas-y, explique pour les auditeurs ce que c'est la sexualité vanille, pour ceux qui ne connaissent pas.
La sexualité vanille, c'est la sexualité qui est... je vais dire préliminaire et une pratique missionnaire.
Classique, quoi, dite classique. Tu utilises préliminaire, toi ? Grand Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ?
J'utilise préliminaire parce qu'il faut expliquer que c'est dans les mots courants.
Et
que du coup, on arrive à quelque chose aux gens où on a de se comprendre. Et en expliquant vraiment que je dis préliminaire, mais en disant que préliminaire, c'est parce qu'on veut aller dans la pénétration et qu'on peut... Et que c'est pas le bon mot à utiliser.
Oui, d'accord. Mais que comme c'est le mot commun, si tu veux que les gens se comprennent.
Voilà. Comprennent, et c'est comme ça que les gens vont me dire en me disant oui, je fais des préliminaires.
D'accord.
À moi de questionner et d'amener que la sexualité n'est pas que pénétratif.
Ouais, bien sûr.
Parce qu'il sait encore beaucoup que la sexualité, c'est pénétratif.
Ouais, bien sûr. Ok.
Donc
les gars, ils arrivent avec leur questionnaire qu'ils ont trouvé sur Cosmo. Non, peut-être pas Cosmo, ça. Mais
non, celui-là, il est
pas sur Cosmo. Sur nous deux, ça existe encore, nous deux, ou pas ?
Non, sur Internet, tout simplement.
Sur Internet, absolument. Hélène, 1283 ans.
Voilà, tout simplement sur... En général, celui-là, il est en anglais, je crois.
Ouais.
Donc, voilà.
Ah, yes, you can do questionnaire, Tuno. Et comme ça, qu'il y a plein de trucs que tu connaissais pas aussi, non ? Non, c'est pas bien de faire le questionnaire, tu dis ?
Ah, je dis qu'ils font ce qu'ils veulent, très bien. Ouais. C'est qu'après de se dire, j'ai plutôt un profil dominant, puis j'ai ça, alors qu'est-ce qu'on en fait
Est-ce qu'on a un profil ? Est-ce qu'on n'a pas plusieurs profils selon les gens avec qui on est ? Ou selon des moments de la vie, selon ce qu'on s'autorise ?
Par rapport à ta question, je vais répondre, c'est que la sexualité, c'est graduellement. D'accord ? Il y a des choses qu'on apprend quand on commence sa sexualité, quand on grandit, on change de partenaire, on apprend d'autres choses.
Sûr,
Et évidemment, à un moment donné...
Des fois, on régresse.
On peut aussi, tout est permis, c'est qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui nous fait plaisir et comment on veut s'épanouir. Enfin, c'est de bien comprendre que la sexualité, c'est là pour donner des bonnes hormones dans notre corps et qu'on soit épanoui avec ça.
Ouais.
C'est une partie de nous qui nous sert à être pleinement heureux. Donc, c'est dommage de ne pas l'utiliser.
Ouais.
Et voilà, on progresse et à un moment donné, on peut avoir d'autres pratiques que celles dites vanille.
Ouais.
Et c'est OK et ça marche avec telle personne. Partenaire, oui. Mais pas avec d'autres.
Oui, oui, bien sûr.
Et c'est ça, il faut pas se. Faut expérimenter et voir comment ça se marche dans notre corps. Quoi.
D'accord. Est-ce que des fois, tu as été confronté à des situations problématiques? Je veux dire, tu as identifié qu'il y avait vraiment une relation merdique, dangereuse, violente?
Toxique.
Toxique, oui. Je sais pas pourquoi j'avais décidé, je ne voulais pas employer toxique.
D'accord.
Peut-être parce que je fais une overdose. Mais ouais.
Peut-être. Alors, je suis confrontée à des gens qui ont subi de la violence.
Ouais.
D'accord. Des attouchements, ouais. Des viols et compagnie. Ouais. En couple, en général, c'est très rare, très très rare, mais c'est plutôt la souffrance psychologique qui se joue.
Ouais, d'accord. Voilà. Et ça, tu la vois. Et qu'est-ce que tu fais de ça?
Ben, j'ai toujours cette possibilité de toujours d'être un à un.
Ouais.
Et de questionner la personne pour qu'elle puisse avoir des ressources,
ouais.
Puisse se faire aider par un autre professionnel pour faire ses choix,
ouais, ouais.
Sur ça, quoi.
D'accord.
Donc, parce que ça, on peut, cette violence psychologique, elle peut être nommée à un moment donné,
ouais.
Mais la personne qui le fait dira toujours non, c'est
ouais,
pas vrai.
Bien
et,
sûr.
On retombe dans l'accompagnement à... c'est moi qui vais être la mauvaise personne. Enfin, voilà, on retombe ouais. Dans quelque chose qui est pas forcément facile à accompagner ou faut arrêter l'accompagnement,
ouais,
mais
ou,
faut que
ouais.
L'autre personne...
Et puis là,
personne...
ça sort de l'ordre de la sexualité. Et de...
Oui, non, mais faut surtout que la personne qui est maltraitée comprenne qu'il faut qu'elle aille se faire aider
ouais, ouais.
En dehors du couple, quoi.
Ouais, ouais. Okay.
Ce qui, des fois, n'est pas si simple que ça.
Bah oui, j'imagine, ouais. Et dans ce cas-là, tu les flèches vers des collègues
C'est ça.
Ouais. Okay.
Exactement, qui sont spécialisés plus là-dedans,
ouais, ouais.
Okay. Qui vont avoir un soutien, quoi.
Et Carole, ça fait une demi-heure qu'on parle, on va
ah,
se faire
pardon.
Disputer, et alors que on aurait pu en parler 200 000 heures. Est-ce qu'il y a des trucs que tu avais notés, qu'on n'a pas dit et qu'il ne faut vraiment pas qu'on rate?
Mais oui, parce que tu m'avais la question, c'est pourquoi les gens font moins l'amour.
Ah oui, c'était ça. Mais ça, on peut se faire. Tu sais, des fois, je fais un petit jingle comme ça où je mets conseil. Ça n'a aucun rapport, mais on va le mettre quand même parce que c'est joli, ça fait de la musique. Regarde, on le met. Oui, donc c'est vrai, j'avoue, il y a cette question que je me pose toujours, c'est parce que on lit aujourd'hui les jeunes notamment ne baissent plus et les Français ne baissent plus et on lit parallèlement les jeunes et puis partout la sexualité partout et puis les gens maintenant sont libres. Alors les gens ils baissent ou ils baissent plus? J'ai pas compris moi, j'ai pas capté.
Alors les très jeunes, ceux qui ont entre 18 et 25 ans,
ouais.
je peux pas te répondre à cette question là, mais je
ouais.
Sais qu'il y a plus de freins parce que j'entends plus en plus de jeunes filles qui ont plutôt commencé leur sexualité entre 20 et 22 ans,
ouais.
Voilà.
D'accord.
Mais pour les gens que je reçois,
ouais,
qui
donc
toujours
ton cœur de cible de 35 ans,
moi ce que j'entends et qui me fait bondir, c'est non mais j'ai la flemme.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Et donc la flemme, vraiment, je questionne ce mot flemme.
Ouais.
D'accord. Et elles finissent par dire ouais, vous avez raison. Ou alors dire, ah ben non, mais on regarde des séries ensemble.
Oui, ça l'appétit vient en mangeant ou pas du tout en fait. Ouais, c'est vrai. La série annihile la vie. Moi, je pourrais me faire faire une opération à cœur ouvert sous série télé tellement ça.
Oh
ça, tu sais, t'es sidéré devant.
Ils regardent des séries, donc après, il faut se coucher. Donc voilà, ça ne leur vient pas.
Ouais,
et
ouais.
On peut passer 15 jours comme ça.
Ouais, hein. Ouais.
Mais ils sont contents d'être sur le canapé en train de regarder des séries.
Ouais.
Soit ils travaillent beaucoup.
Ouais.
Il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens, qui hommes et femmes, hein, qui passent beaucoup de temps à leur travail.
Ouais.
Donc après, c'est pareil, c'est flemme.
Ouais, flemme.
Ouais,
flemme. C'est vrai. Hein.
Ou ils sortent beaucoup.
Ils sortent beaucoup. Ouais, mais ouais. Ça, du coup, attends, franchement, ça, c'est bien. C'est une belle sexualité.
Non, mais comme ils sortent beaucoup, ils boivent beaucoup.
Ouais, excellent. Ouais, pardon, c'est moi. Ils m'excitent. Non, pardon. Ouais.
Ou ils sont beaucoup sous coke et du coup, ils n'y arrivent plus.
Ah ouais, d'accord.
Donc,
moi, je ne me coke pas, du coup. Je ne sais pas. Ah oui, les gens ne baissent. Je crois que c'était super.
Ouais, c'est super en termes d'émotion.
Ne pas reproduire à la maison.
Ouais, mais pas en termes de sexualité.
Ah ouais, d'accord, d'accord. Non, mais bon.
Donc,
je crois que c'était super pour. Non, mais je crois qu'il y avait des gens qui prenaient ça en guise de sexualité. Moi. Bon, bref,
ah oui,
donc,
non.
Ne pas reproduire à la maison.
Et à peu près la moyenne que j'ai pu te faire comme ça, c'est que les gens font à peu près l'amour une fois tous les 15 jours, quoi.
Ouais. Une fois tous les 15 jours. D'accord, ouais. Très bien. Mais écoutez, sinon, c'est nul. Le podcast n'a servi à rien. Où on a dit, il y a beaucoup de dimensions, c'est super et tout. Et moi, je résume en une phrase. Si c'est pas tous les 15 jours, c'est pas bien. Non, non, mais d'accord. Donc, ouais, toi, tu vois ça, c'est ça que. Et donc, tous les 15 jours, les mecs, ils consultent. Putain, les gens ont des attentes. Hein. C'est beau, la France.
Tous les 15 jours, oui,
consultent. Ça, c'est la France qu'on aime. C'est la France dont on est fier. Excusez-moi. Tout va bien dans ma vie sexuelle.
Oui, oui, bah, tous les 15 jours, c'est quand même quand t'as 30 ans, c'est peu quand même.
Ah ouais, 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 ouais. Je sais pas, je me rappelle pas. Bah, moi, j'avais des jumeaux, hein, j'aime autant te dire. C'est... Bon, bref, ouais. N'en parlons plus. Très bien. Et les quarantenaires, ils sont bien, non? Et les cinquantenaires, ils sont bien encore?
Bah, les cinquantenaires.
Parce que moi, je vais avoir 45 ans. Ouais. Bientôt, je vais passer de l'autre côté de la barre.
Okay,
bah, ça va bien se passer?
Oui, tout va bien se passer.
T'es voyante ou pas?
Non.
La merde, nul.
Mais après, ça dépend quel est déjà à la base ton rapport à la sexualité.
Ouais.
D'accord, c'est terminé l'histoire de. Bon, je te l'ai peut-être déjà dit, mais que penser qu'une femme maintenant à 50 ans, parce qu'elle est ménopausée, elle n'a plus le droit à sa sexualité,
bien
ça
sûr.
C'est bullshit. On
Nous avons fait
ça.
Un excellent podcast là-dessus, je vous invite à réécouter d'ailleurs.
Donc ça c'est fini et maintenant non, tout est là à 40 ans, à 50 ans, à 45 ans, c'est qu'est-ce que tu as déjà fait avant de ta sexualité?
Ouais.
Plus ta sexualité, tu as été curieux
parce qu'elle était riche et évolutive.
Plus tu continues quoi.
Et je crois que c'est donc tu dis c'est évolutif, ça va vers le crescendo. C'est-à-dire il y a un moment à 80 ans, putain, c'est un truc de ouf, seulement on est des bêtes de sexe. À l'EHPAD, ça se chauffe vénère contre le déambulateur.
On a quand même des statistiques qui disent qu'à partir de 78 ans,
78 ans. Ouais. Ah, c'est précis hein. Pour les hommes et pour les femmes.
Oui, 75 ans et 78
ans. Arrête, ça me déprime.
Ouais. C'est déjà pas mal, tu vois, tu regardes le nombre d'années qui te restent à prendre plaisir
à sexualité. À te prendre, on ne sait pas quoi.
À prendre plaisir.
c'est pas mal, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, crescendo, surtout pour nous les femmes, attends.
Oui, surtout pour nous les femmes.
J'avais envie quand même de le dire. Ouais. C'était gratis, mais ça fait plaisir. C'est vrai pour une fois qu'on a un domaine où on est vachement, on est quand même bien énervé à ce niveau-là.
Ouais, très bien.
Voilà.
Très bien. Il faut être curieuse, et curieux dans la sexualité si on veut avancer sur ce chemin-là.
D'accord. Un petit conseil de curiosité, de romanesque? Un petit truc. Moi, par exemple, le romanesque, ça active ma sexualité. Moi, je fais n'importe quoi souvent. Si je donne des numéros de téléphone dans la rue parce qu'on s'est souri trois fois, ou j'ai toujours fait ça toute ma vie. Ça m'active. Un petit conseil, qu'est-ce qui peut. Un petit truc comme ça, un petit tips, genre j'ose un truc et ça va être trop cool.
Ah bah, dès que quelqu'un te plaît ou que tu mets quelque chose, faut oser aller parler, faut oser donner son numéro de téléphone, c'est ça tout le travail de l'imaginaire, parce que toi tu me dis que tu fonctionnes comme ça, d'autres vont fonctionner complètement différemment.
Ouais, c'est qu'elle ait trouvé son propre imaginaire pour activer sa propre sexualité en dehors de mater la pornographie 10 secondes.
Oui, bah, c'est sûr que la pornographie c'est limitatif.
Ouais.
Mais ça va être vraiment très personnel à chaque personne où il en est dans sa sexualité.
Mmh, d'accord.
Moi, je suis pas très cosmo, des trucs comme ça, dire faut faire ci, faut acheter ça.
Non, moi non plus, bien sûr, évidemment. Alors là,
parce que
oulala,
les gens,
Dieu.
Ils arrivent. En plus,
c'est culpabilisant à souhait. Ouais. Oui, c'est atroce, on est contre, bien sûr. Voilà. Moi, je lisais ça quand j'avais 20 ans. Je ne sais pas pourquoi, je m'abreuvais de ça. Ça m'a limité, je pense. Mais en tout cas, bon, d'accord. Donc, à chacun de trouver son imaginaire. Si on n'en a pas, on va devoir.
Ouais, oui, c'est ça.
Voilà.
Exactement.
Et puis, si nous, on en a, mais pas son mec, on va devoir.
Exactement.
Ou alors, on essaie de parler déjà à l'autre ou de lui proposer. Et puis.
La communication, c'est le sujet le plus important dans le couple. Et la sexualité, c'est le sujet dont on a le plus le peur de parler en couple parce qu'on se dit l'autre va peut-être nous quitter ou l'autre va moins nous aimer à cause de mes envies sexuelles ou de mon imaginaire sexuel ou de.
Donc autorisez-vous, c'est merveilleux. Et puis ton métier est loin de. Et c'est pas demain que ça va s'arrêter. Voilà. Bon, merci beaucoup Carole d'être revenue. Effectivement, on avait fait un podcast toutes les trois d'ailleurs. On était avec les femmes canons, comment elle s'appelle, Virginie. Mmh. On avait fait un podcast sur la sexualité post-ménopause, qui a hyper bien marché. J'ai eu plein de messages sur ce podcast qui était très bien. Et puis on en avait fait un autre avec ton ancien podcast. Bon, bise. Merci d'être revenue. Tu reviendras. Et puis, sexons. Et puis, alors, la semaine prochaine, on a un autre métier, un peu rigolo, mais je vais revenir, je ne vous dis pas. Salut.
Merci, au revoir.
Merci.